On m'a donné le petit rapport sur l'évaluation du cours qui sera débattu mercredi, cette évaluation. Et alors, la plupart des étudiants trouvent ce cours intéressant, voire passionnant. Un certain nombre de choses nous semblent essentielles qui sont découvertes. Le judaïsme a quelque chose à voir avec notre foi et avec l'évangile, bien entendu. Alors, quelques suggestions qui me sont données. Il y a d'abord quelqu'un qui dit qu'il aimerait avoir l'autre face de l'histoire, la persécution des chrétiens par les juifs. Je n'en ai pas parlé parce qu'elle est minime. Vous la trouvez chez saint Paul, bien entendu. C'est saint Paul qui a commencé ce mouvement de persécution. Saint Paul qui était encore Shaoul, bien entendu, qui a commencé ce mouvement de persécution. Il existe un peu, mais depuis le IVe siècle, les persécutions sont pratiquement toutes du côté chrétien. Il faut bien l'avouer, et donc nous avons un chemin de pénitence, de reconnaissance et de pénitence à faire à ce niveau-là. Bien sûr que je ne désire pas être unilatéral, mais il faut quand même regarder les proportions. Alors, un deuxième point qui est touché, le syllabus ne rend peut-être pas toute la richesse de l'exposé oral. Bien sûr, je vous donne dans le syllabus un certain nombre de données positives, mais quand même aussi, et il faut aller les voir, les documents, et surtout les lire. Parce que ces documents apportent beaucoup de choses, parce que ce sont des voix juives. Et donc le juif peut bien parler de lui-même. Alors, on déplore aussi de ne pas avoir du temps pour poser des questions. Mais je suis tout à fait ouvert au questionnement, mais nous ne pouvons pas débattre avant d'avoir vu sur quoi nous débattons. Alors, les questions qui se posent, de grâce, si vous en avez, j'espère que vous en avez, mettez-les sur papier, c'est plus facile, vous les mettez dans mon casier, et j'y répondrai d'une manière ou d'une autre, lorsque le thème traité viendra. Parce que c'est tout un ensemble, vous l'avez bien découvert. Alors, deux choses que je n'ai pas pu, dont je n'ai pas pu vous parler, mais une, c'est pas très grave, c'est qu'il y a aussi une dimension mystique. Je vous ai parlé surtout des deux premiers sens spirituels de l'interprétation juive, les quatre sens de l'écriture, le sens simple, le sens allégorique, le sens tropologique, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut faire, puis un sens mystique. Le sens mystique, c'est l'expérience de la présence de Dieu à faire. Je dis bien à faire, parce que pour le juif, on fait avec ses doigts, on fait avec sa vie, on fait avec ses gestes, et pas seulement avec sa compréhension. La compréhension, c'est la Haggadah. On comprend, mais on ne comprend ce qu'on fait qu'en le faisant. On ne comprend que par l'expérience. Ça, c'est un premier point dont nous devons vraiment nous... dans lequel nous devons vraiment nous introduire, nous glisser dans cette réalité. Sinon, on ne comprend pas bien le judaïsme et pourquoi le judaïsme est d'abord et avant tout une action avant d'être une foi. Lisez la lettre de saint Jacques, c'est tout à fait clair. Ça, c'était une première chose, mais nous reviendrons sur ce sens mystique, parce que c'est un mouvement mystique est très important dans le judaïsme aussi. Parallèle, évidemment, au mouvement soufiste dans l'islam. Alors, une autre chose sur laquelle je n'ai pas pu appuyer justement parce que c'était le juif sous la Torah, ce que je n'ai pas pu traiter le 4 septembre, que je suppose que vous pouvez lire le texte dans le syllabus, c'est l'importance du geste, du faire. Qu'est-ce que c'est que agir? Et je vous cite dans un livre que j'aime beaucoup et qui vous fait bien découvrir ce qu'est le judaïsme, qui est de Abraham Heschel. Il est cité, vous savez, dans la première page du chapitre en question. Abraham Heschel, Dieu en quête de l'homme. Il dit philosophie du judaïsme. Le juif n'a pas de théologie à proprement parler. Parce que pour le juif, pour faire une théologie, il faudrait savoir ce qu'est Dieu. Mais nous ne le savons qu'à travers la création et à travers son œuvre. Donc nous devons déduire ce qu'il est. Donc nous ne pouvons pas faire comme si nous savions qui il est. Et donc, l'important, c'est l'agir. Mais dans l'agir, il y a ce qu'on appelle en hébreu une kavana, c'est-à-dire une intention profonde. Nous dirions même une intention motivée. Et cette kavana, c'est ce qui donne sens à la réalité de nos agissements, de notre comportement. Et je vous cite précisément un petit passage, et comme ça vous entrez aussi dans la perception juive. Si un acte est bon par lui-même, pourquoi le tenir pour imparfait lorsqu'il est accompli sans la participation de l'âme? Pourquoi la kavana est-elle nécessaire? Pourquoi faut-il que une intention habille le geste que nous faisons? Un acte moral accompli à notre insu peut être utile au monde à cause de l'assistance qu'il apporte à autrui. Mais un acte sans dévotion, quels que soient ses effets sur la vie des autres hommes, n'affecte en rien la vie de celui qui l'accomplit. Il faut que cet acte nous change. Donc qu'il soit un engagement et une prise de responsabilité. C'est ça la kavana, l'intention profonde, la dévotion. Et ce terme de dévotion, hein, si vous le percevez bien, vous allez le retrouver chez saint François de Sales. Introduction à la vie dévote. Hein, pour saint François de Sales, la dévotion est cette réalité profonde avec laquelle nous agissons. Le véritable but de l'homme, c'est d'être ce qu'il fait. Donc, n'est pas simplement action, mais un acte qui embrasse à la fois l'agissant. Les moyens de l'action peuvent être externes, mais la fin est personnelle. Que vos actes soient saints, ainsi vous serez saints. C'est un adage qui revient plusieurs fois dans le Lévitique. Soyez saints parce que moi, votre Dieu, je suis saint. Soyez saints de participer à ma sainteté. Le vrai héros est supérieur à ses actes. Les actes sont des signes qui disent une réalité profonde. Et le véritable homme pieux est supérieur à ses rites. L'acte est défini, mais le devoir est infini. L'acte est défini, ce n'est qu'une petite chose, mais le devoir, la réalité avec laquelle vous le faites, là c'est infini. C'est une erreur de dire que le judaïsme consiste exclusivement à accomplir des actes rituels ou moraux. C'est oublier que le but de tout culte est la transformation de l'âme. Même avant que les 10 commandements aient enseigné à Israël ce qu'il devait faire, Israël avait appris ce qu'il devait être, un peuple saint, pas sacré, saint, c'est-à-dire de la présence de Dieu reconnue. Accomplir des actes de sainteté, c'est intégrer à soi-même la sainteté de ses actes. Nous devons apprendre à ne faire qu'un avec nos actes. C'est pourquoi la halakha, c'est-à-dire le comportement, qui est la science des actes, est complétée par la agada, ce qui est l'art d'être. L'homme n'est pas pour les bonnes actions, ce sont les bonnes actions qui sont pour l'homme. Hein? L'homme n'est pas pour la Torah, sinon on va déifier la Torah, en faire une idole. Mais la Torah est faite pour l'homme. Ce qui est important, la visée de Dieu, c'est toujours la transformation de l'homme. Nous dirions la divinisation du chrétien. Le judaïsme demande plus que les œuvres, plus que l'opus operatum. Hein? Car le but n'est pas l'accomplissement d'une cérémonie, mais la métamorphose de l'homme. En d'autres termes, rendre culte au saint pour être soi-même saint. Le but des mitzvot, des commandements, est de sanctifier l'homme. Hein, je vous cite cette page, vous savez, elle est dans les documents, mais elle est importante. Parce que si nous n'avons pas ça, nous ne visons pas vraiment le judaïsme. Et il est intéressant de voir dans l'encyclopédie, hein, le dictionnaire encyclopédie du judaïsme, il est très intéressant de voir hein, le chapitre, le terme « commandement », les mitzvot, il y a 613 commandements dans la Torah. 613 commandements, c'est-à-dire 248 positifs et 356 négatifs. Qu'est-ce que ça veut dire ? 248, ce sont les parties doubles du corps. Elles sont déterminées hein, comme ça dans l'anatomie juive. Et donc, avec toutes nos parties du corps, nous avons à nous enrober de la sainteté divine. C'est pour ça que l'action est toujours active par le corps. Le corps est important dans le judaïsme. Alors, 365 négatifs, parce qu'il y a 365 jours par an, et chaque jour est une limite. Il y a une grandeur, mais dans une limite. Et nous avons à assumer cette limite, c'est-à-dire cette imperfection dans laquelle nous sommes, nous avons à l'assumer justement pour laisser notre vie se transformer. Donc ça, c'est quelque chose de très important sur lequel je voulais revenir parce que on n'a pas eu la possibilité le mois dernier. Mais nous allons voir maintenant comment cela s'exprime dans la vie. Et à la page 36, nous traiterons de ce chapitre aujourd'hui. À la page 36, nous avons les étapes de la vie juive. Comment ces étapes sont-elles perçues hein, depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est pourquoi je mets tout au début la première phrase de ce chapitre, à la page 36. C'est toujours la sainteté qui constitue la visée essentielle de la vie juive. Et celle-ci est scandée par des événements qui invitent sans cesse à reprendre conscience de l'importance de l'existence humaine devant Dieu. On est responsable, mais devant Dieu. Pas seulement une responsabilité personnelle ou devant les autres, mais devant Dieu. Point n'est besoin de sacraliser les étapes de la vie humaine, d'y ajouter hein, comme quelque chose de l'extérieur pour que ça devienne un peu sacré, mais bien d'en découvrir la sainteté. C'est pas la même chose. Le sacré, c'est la manière dont nous donnons de l'importance à des réalités, parce que nous y mettons une pensée divine. Et c'est toujours une œuvre de l'homme, le sacré. Mais la sainteté est reçue. Elle n'est pas d'abord œuvre de l'homme, elle est d'abord œuvre de Dieu. d'en découvrir la sainteté et d'en célébrer ce dont elle est porteuse par grâce divine. Pas par notre intention personnelle, par grâce divine. Et c'est ça la véritable dévotion. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres et une nation sainte. Et ça se trouve précisément à un moment très précis, chapitre 19e de l'Exode. C'est au moment où les 10 commandements, les 10 paroles vont être données. Rien de ce qui advient à l'homme n'est banalisé, parce que tout est imprégné de la présence de Dieu. Rien n'est sacralisé, mais tout est sanctifié. Et nous devons bien réfléchir sur la différence qu'il y a entre le terme du sacré, qui est une réalité que l'homme perçoit, et la sainteté qui est une réalité que l'homme reçoit. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une naissance? Un homme naît. Selon le Talmud, l'homme est le produit d'une triple association, le Père, la Mère et Dieu. Le Saint béni soit-il. Le mariage en vue de la procréation est la première mitzvah. C'est le premier commandement. Croissez, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Ça, c'est vraiment le tout premier commandement. C'est-à-dire le commandement de la vie. C'est la vie qui nous commande d'être vivant. Et être vivant, c'est donner la vie. Telle est l'obligation fondamentale offerte à l'homme et à la femme comme participation à l'acte divin créateur. Et que de fois, j'ai eu à l'école juive des discussions avec les étudiants juifs en disant « Est-ce que tu es marié ?»« Aïe matanasoui. Est-ce que tu es marié ?»« Non. Pourquoi non ?»« Alors, t'es un yored. T'es un tir au flanc. » C'est-à-dire, tu ne reçois pas les exigences de ce que tu es. Tu es un être sexué, donc tu as, ton premier devoir, c'est de continuer la vie, de participer au travail de Dieu. Et c'est très difficile de faire percevoir la réalité du célibat. Il y a un homme qui est célibataire dans la Bible, et c'est Jérémie. Parce qu'il est à la fin des temps. Tout va disparaître. Donc pour Jérémie, c'est important. Alors il faut partir soit de Jérémie, soit de la communauté de Qumran. Les gens de Qumran n'étaient pas mariés. Donc une communauté, mais une communauté qui est en vue des derniers jours. C'est parce qu'on vit déjà la vie de l'au-delà. On commence à vivre là où on ne se marie pas, où on ne fait pas d'actions extérieures. Dès lors, la transmission de la vie apparaît comme la fin première du mariage, destinée à donner son plein épanouissement au couple grâce au bonheur qu'elle procure aux époux en les rendant mère et père à l'image de la ressemblance de Dieu. Chapitre 1er de l'Exode, Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, homme et femme. Il le crée comme communion. Et communion sexuée. D'où l'importance de la célébration lors de la naissance d'un enfant, de même que tout ce qui concourt à cette célébration. Et voyez, les rabbins insistent sur la nécessité d'une préparation physique, psychologique et morale en vue de l'acte primordial du don de la vie. L'homme et la femme se donnent l'un à l'autre de devenir procréateurs dans la vie, de la vie. Donc voilà la visée. La visée, c'est de vivre, se croiser, multiplier, remplissez la terre et soumettez-la. Encore faut-il voir ce que ça signifie, soumettre la terre. Parce que là, il y a toute une réflexion, en tout cas dans le Talmud, toute une réflexion écologique. Recevoir la terre, c'est donner à la terre et à tous les éléments de la terre, tout ce qui grandit, etc., leur donner d'être ce qu'ils sont. Pas de les mettre simplement au service de l'homme, mais de faire que la terre elle-même, les animaux eux-mêmes, les plantes, etc., deviennent de plus en plus ce qu'ils sont. C'est parfaire la création, l'hominiser, mais pas mettre tout ça au service d'une volonté de l'homme. Donc vous voyez, il y a dans le judaïsme une perception très profonde de ce qu'est la nature, c'est-à-dire ce qui est donné. La nature, la création, c'est ce qui est donné par Dieu et toujours au service de la vie. Je cite aussi une tradition rabbinique dit que les rapports conjugaux joints à la prière assidue en couple pendant les 6 derniers mois de la grossesse sont déterminants pour la formation de l'embryon dans un climat de tendresse et de piété. Donc dès avant la naissance, c'est déjà introduire l'enfant qui est en route, l'introduire dans la perception de cette présence divine. Alors, la circoncision. Pourquoi la circoncision? Vous savez que maintenant c'est en discussion en Europe. Interdire la circoncision des enfants. Le journal de cette année. Oui? Non. Et je vous donne simplement pourquoi non, c'est le grand rabbin Guigui qui signe cet article. Si cette interdiction devient effective, je pense que les Juifs seront invités à quitter l'Europe ou à disparaître en tant que Juifs. Je suis catégorique en le disant, on ne peut pas être Juif s'il n'y a pas de circoncision. Pourquoi ? Parce que le Juif, c'est celui qui appartient au peuple juif. Et donc il faut reconnaître cette appartenance. On met un enfant au monde, on l'oblige. Il n'était pas là, on le fait naître. On le fait naître, si c'est simplement une réalité humaine, ah ben alors, ils deviennent le désir des parents, pas plus que ça. Mais ça, c'est pas suffisant. C'est le désir de Dieu qui est la vie, qui est important. Alors, ça vaut aussi pour le nom. Le nom d'un enfant, quand est-ce qu'on va lui donner le nom? 8 jours après la naissance, certainement pas avant. Pourquoi? Mais parce qu'avant, on ne sait pas encore ce qu'il est. Tandis qu'on a 8 jours pour essayer de découvrir ce qu'il est. Ce qu'il est. C'est comme signe. Et donc cela va influencer la manière dont nous allons l'appeler. Ce n'est pas le désir des parents qui est le premier. C'est essayer de répondre à ce que une réalité, une personne est. Et c'est pour ça que s'il est gaucher, si on voit qu'il est gaucher, on va l'appeler Benjamin, Benjamin, le fils de la droite. Parce que la gauche est censée être néfaste, funeste. On dit que quelqu'un est gauche ou qu'il est à droite. Vous voyez, ce qui veut dire que jusque dans la manière d'agir et la manière de s'exprimer, on dit une perception, on dit une mentalité, on dit une appartenance. C'est aussi la réalité, je n'en ai pas parlé, mais elle se trouve dans le chapitre précédent, c'est aussi la signification de la cacheroute. Manger cachère, qu'est-ce que ça veut dire? Le musulman aura aussi le halal. C'est manger des choses qui sont perçues d'une certaine manière par le peuple comme appartenance au peuple. Des choses particulières. Pourquoi ces choses particulières? Parce que cette particularité va noter une spécificité. Si je ne mange pas du cochon, ça veut dire quelque chose. qu'est-ce qu'elle est l'image que le cochon symbolise, une image d'une réalité un peu dégoûtante. Et puis, on ne mange pas du cochon quand il fait chaud, dans les pays chauds. Le cochon ne peut pas non plus transpirer. Des choses étranges comme ça. Et donc, voilà un certain nombre de choses qu'on ne va pas manger. On va donner des règles précises. Mais les règles ont toujours une symbolique derrière elles, elles ne sont pas simplement conventionnelles. Il y a une symbolique qu'il faut justement percevoir. Donc vous aurez dans l'Évangile cet épisode des porcs qui se jettent à la mer et qui sont perdus. Mais perdus pourquoi? Parce qu'il y a une sainteté à préserver. Alors, cette circoncision qu'on veut supprimer en raison d'une intégrité corporelle, c'est vrai. Une intégrité corporelle, c'est important. Mais il paraît que la circoncision a aussi une valeur de protection. Et j'ai reçu tout un article là sur l'importance de la protection que signifie la circoncision, empêchant une prolifération notamment du virus du sida. Parce que le virus du sida se développe dans ce qui est humide, dans l'humidité, et quand on assèche le gland du pénis, là, il devient sec et le virus ne se propage pas. À telle enseigne qu'il y a tout un mouvement on a fait appel à Israël, justement, pour le développer en Afrique. Développer, justement, la circoncision là où elle n'est pas de mise, parce qu'elle est quand même de mise dans beaucoup de régions, mais la propager, justement, pour comme prévention du sida. Il donne même des chiffres énormes. Depuis 1989, plus de 70 000 circoncisions ont été réalisées sur des adultes en Israël, en particulier sur des nouveaux immigrants juifs en provenance d'Europe orientale et d'Éthiopie notamment. Par ailleurs, il faut rappeler que 52 000 juifs, musulmans et chrétiens sont circoncis dès la naissance en Israël chaque année. Je m'interroge ici sur le sens que cela a. Qu'est-ce que ça veut dire couper ce prépuce du membre qui donne la vie et verser quelques gouttes de sang. Quelques gouttes de sang d'ailleurs que l'on garde précieusement sur un linge particulier que l'enfant à 3 ans va venir présenter à la synagogue, autrefois au temple. Ça veut dire que donner la vie, c'est d'abord donner sa vie, donner son sang. Donner la vie, c'est donner sa vie pour Israël, c'est-à-dire pour Dieu. C'est toujours cette appartenance à un peuple. On mange comme cela, on est comme cela, on meurt comme cela, en Israël. Parce que c'est le peuple de Dieu. Je ne dis pas que c'est observé généralement par 100% de la communauté juive d'Israël, bien sûr que non. Mais c'est le but essentiel. Comme il n'y a pas 100% de chrétiens qui vivent en chrétien, évidemment. Il y a une toute petite partie. Mais cette partie est symbolique du reste. Et le fait pour le reste, c'est important cela aussi. Tout ce que vit un juif, il le vit pour toute la judaïté. chaque homme, chaque femme est responsable de toute la judaïté. Est-ce que nous sommes responsables de toute l'humanité si nous sommes chrétiens universels? Cette petite opération où le bébé mâle donne un peu de son sang par le membre qui donne la vie est significative de son entrée dans l'alliance d'Abraham. C'est comme ça qu'on s'explique. Elle est pratiquée même un jour de Shabbat ou de fête, y compris le jour de Kippour, le jour du grand pardon, par un spécialiste formé à cet effet, le Mohel, le circonciseur. Différentes coutumes se sont adjointes à ce geste essentiel, présence de 10 hommes adultes à Minyan. À Minyan, c'est 10 hommes adultes, ce qu'il faut pour qu'une prière soit vraiment communautaire. Les 10 doigts de nouveau. Hein. L'enfant amené par la marraine est placé par le parrain sur le signe d'Élie. Ah, le siège, pardon, le siège d'Élie. Il y a un siège vide, vacant, qui est pour Élie, avec un verre de vin toujours. Ça veut dire, cet enfant pourrait être le Messie, en fait. Et donc, on attend que Élie, si cet enfant était le Messie, on attend que Élie vienne le révéler. Comme on laisse une place pour Élie, hein, le jour de Pâques, un fauteuil pour Élie. Donc ça veut dire, c'est très important, que tout homme est un Messie en puissance. D'ailleurs, hein, il y a toute une tradition dans le judaïsme, vous savez qu'il y a des traditions diverses, il n'y a pas une orthodoxie dans le judaïsme, il y a des traditions diverses. Hein, il y a un homme est un... tout homme est un Messie en puissance. Ça veut dire que tout homme doit dans sa vie réaliser les 613 prescriptions. Et justement, c'est ce qui a été reconnu par les premiers chrétiens à Jésus. Il y avait deux traditions à l'époque de Jésus, deux traditions sur le Messie. Est-ce qu'on peut le faire venir, le Messie? Ou bien est-ce qu'il viendra parce que Dieu l'a décidé comme cela? Alors les uns disaient, oui, Dieu l'a décidé, donc c'est de lui que ça dépend. Il l'enverra quand il voudra. Mais il y aura un précurseur. Et Élie, le retour d'Élie était considéré comme précurseur. Et il y en a d'autres qui disaient, mais non, on peut rater la venue du Messie si un homme, un jour, observe à la perfection des 613 prescriptions, le Messie viendra et ce sera le Messie. Donc, chaque homme, chaque femme est destiné à devenir Messie. Le Messie, c'est toi. C'est toute une tradition juive qui nous dit cela. Le Messie, c'est l'homme tel que Dieu le rêve. C'est l'Adam. Le Adam accompli, le Adam accompli. Le deuxième Adam, c'est cette thèse que saint Paul va encore reprendre, le premier Adam, deuxième Adam, chapitre 5e de l'Épître aux Romains. Alors, l'enfant est amené, placé donc par sur le siège d'Élie, bénédiction sur un verre de vin, imprégné du sang, imprégnation du sang sur la mappa, hein, la serviette, de l'ange brodé, chez les Ashkénazes, et surtout réception du nom hébraïque. Les assistants proclament d'eux-mêmes qu'il est entré dans l'Alliance, puisse-t-il grandir pour la Torah, le dès nuptial et les bonnes œuvres. Torah, dès nuptial, bonnes œuvres. Voilà les événements majeurs de la vie d'Adam. Entrer dans la Torah. La Torah, hein, qui est, je crois vous l'avoir dit déjà, hein, on joue sur les mots, la Torah, Torah, Horat Israël. La Torah est la matrice d'Israël. La Torah, ce n'est pas un commandement extérieur, un ordre qui vient d'extérieur. La Torah est le mode d'emploi de la vie qui se dit d'elle-même par la vie. Donc vous voyez l'importance de la réalité naturelle. La nature étant de nouveau ce que Dieu donne, ce que Dieu crée. Alors, verser quelques gouttes de sang par le membre qui donne la vie, c'est quelque chose d'important. Et ça, c'est inscrit dans la chair du Juif. C'est d'ailleurs ce qui a fait que c'était le signe que, pendant la Shoah, le signe auquel on reconnaissait que les gens étaient juifs. La circoncision. Est demeurée une pratique constante dans le judaïsme comme signe d'identité juive et d'appartenance corps et âme au peuple de Dieu. Voilà pourquoi, le grand rabbin dit, si on supprime la circoncision en Europe, plus de juifs ne pourra exister en Europe. C'est la fin du judaïsme. Parce que l'importance n'est pas dans l'idée, l'importance est dans la chair. C'est cette chair fragile qui est présence de Dieu. Pour les filles, la situation est un peu différente. Et le rite plus modeste est appelé présentation de la fille à la synagogue, Zevet Habat, accompagné de la nomination. La nomination, justement, est donnée aussi le huitième jour. Cet apparent déséquilibre entre fils et fille provoque des questions qui obligent à réfléchir au système talmudique de représentation de la parenté. En fait, naître fille, c'est déjà en quelque sorte devenir mère. La maternité est d'ores et déjà imprimée dans le corps de la petite fille. Elle est déjà potentielle de maternité. Elle est déjà porteuse d'une présence de vie qui est présence de Dieu. Et c'est elle qui, plus tard, déterminera la judéité de son enfant. La femme suit davantage l'ordre de la nature inscrite en son corps, et en quelque sorte, elle est plus proche de la sainteté de Dieu à travers toute son existence, dont une bonne partie sera occupée, autrefois, en tout cas dans la Bible, c'est comme ça, à la conception, la gestation, l'éducation des enfants. Elle est plus proche de Dieu, parce qu'elle a la vie dans son corps, une nouvelle vie en son corps. Et quand elle n'est pas en état, ses règles sont le rappel constant que elle est mère pour Dieu, mère d'une vie que Dieu donne. Et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas l'obligation d'aller à la synagogue. Elle est présente dans la maison, dans le lieu où se fait cette présence, où se vit cette présence de Dieu dans les enfants. Donc c'est très important cela. Et donc c'est une garantie de présence. Elle est présence à l'intime de la présence de Dieu. Tandis que pour l'homme, il faut le convoquer à la synagogue tous les jours du Shabbat. Pourquoi ? Parce que sinon, il se répand dans le monde et il ne ramène plus les choses à la réalité profonde, ce que fait la femme. Et c'est pourquoi la femme va aider le mari à vivre sa religion. Et tout ça fait partie d'un ensemble. La petite fille amenée par son père à la synagogue reçoit une bénédiction spéciale. Ce n'est pas que les filles soient moins importantes que les garçons, souligne un témoignage de femme, mais elles n'ont pas besoin de prouver quelque chose. Elles sont juives d'emblée, et c'est elles qui donnent le judaïsme. Le fils, il est juif aussi. Mais s'il n'est pas circoncis, il ne sera pas vraiment considéré comme juif. Une coutume assez répandue chez les juifs du Maghreb est le bain de la petite fille le 8e jour après sa naissance. Bain auquel participent les amis de la famille et du couple. Ce qui est important, c'est que tous les gestes, tous les rites du judaïsme ont toujours un sens profond, mais qui vise à ce qu'on appelle le symbole, c'est-à-dire le sens de cette réalité profonde. Le symbole n'est pas une simple image, c'est la réalité essentielle. Et il en va de même pour la purification de la femme accouchée, ou relevaille. Si elle donne naissance à un garçon, elle sera impure pendant 7 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a rien à voir avec une saleté quelconque, hein. Cette impureté, ça veut dire, pendant un certain temps, il faudra qu'elle soit en quelque sorte en retraite. Elle ne fait pas ce qui est commun. Saint-Luc utilise toujours ce terme de commun. Comme ce que tout le monde fait. Non. Elle fera des choses particulières à une situation. Et pendant, donc, elle restera pendant 15 jours. Mais c'est le double quand on est mère d'une fille. Parce que justement, il faut que cette concentration sur la maternité, sur le don de la vie, puisse pénétrer jusque dans cette petite qui est née, qui vient de naître. Toujours la vie. La vie, parce que la vie vient de Dieu, et la vie de toute chair est dans son sang. Donc l'importance du sang comme élément de purification, puisque c'est une présence divine. Plus que l'eau encore. C'est ainsi qu'elle n'est pas soumise, la femme, à certaines obligations qui doivent s'accomplir en un temps déterminé, comme sa présence aux offices le jour du Shabbat, pas tenu, l'homme bien, à cause de sa tâche d'éducatrice, et donc de sa proximité plus constante avec Dieu, inscrite en son corps par la période de ses règles. La périodicité de ses règles. Donc, première chose, la naissance, circoncision. Majorité religieuse, qu'on appelle aussi confirmation. Tiens, c'est drôle, hein? Confirmation. C'est l'entrée dans la Torah. L'entrée dans la Torah qui se fait, hein, d'abord, je vous ai dit qu'à l'âge de 3 ans, hein, le petit apporte à la synagogue, hein, cette première goutte de sang, en quelque sorte, son appartenance. À 13 ans, a lieu la cérémonie du Bar Mitzvah, c'est-à-dire fils du commandement. Fils du commandement, qui correspond quelque peu à notre profession de foi. Mais pas une profession de foi. C'est une prise de conscience de sa présence comme enfant d'Israël. Et là, le garçon, hein, qui arrive à sa maturité religieuse, le jour de ses 13 ans, vient à la synagogue, lit pour la première fois un passage de la Torah, le passage qui est donné pour le jour en question, et en fait l'explication, il en fait une homélie. Généralement, c'est son papa qui le fait et il le prend par cœur. Hein, c'est comme ça que ça se fait. Mais c'est important, il prend son rôle au sérieux, son rôle de participant à la connaissance de l'écriture, hein, qu'il sera amené à mettre dans son existence. Ça, c'est la Bar Mitzvah. La cérémonie se déroule à la synagogue, le garçon y vient le Shabbat qui suit ses 13 ans, accompli, pour faire la lecture prescrite à l'office matinal. Il peut composer une homélie et réciter les bénédictions qui encadrent les lectures. C'est l'aboutissement d'une catéchèse dont son père était normalement chargé jusque-là. Il est habilité dès lors à réciter les grâces au repas et à mettre les tfilines. Ces tfilines, ce sont les signes de son appartenance. Ce sont deux petits boîtiers noirs qu'on met sur le front. et dans le creux du bras gauche. Ta parole, c'est le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu les mettras sur ton front, c'est-à-dire dans ta pensée, dans ton intime, et tu les mettras sur ton cœur. Et il y a un petit passage du Deutéronome, ce passage-là entre autres, le Shema Israël, qui sont présents dans ce petit boîtier noir, qui est lié sur la tête et lié sur le bras gauche. Le bras gauche, parce que quand le bras gauche est plié, il est contre le cœur. Donc tu mettras la Torah dans ta tête, compréhension, et dans ton cœur, réflexion. Et vous avez de même, hein, ces petits passages de la Torah sont mis, d'après la prescription qui vient dans le Deutéronome chapitre 6, hein, sur les montants, sur les linteaux des portes. Vous avez un petit... oui, ça peut être un objet d'art, un petit étui, simplement, contre le mur, dans lequel il y a ce petit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, hein, le Seigneur ton Dieu, le Seigneur unique, tu aimeras, et tu mettras ce nom sur ton front, dans ta bouche et dans ton cœur. Nous avons gardé ce geste, hein, à l'Évangile. Tu mettras dans ton front, dans ta tête, dans ta compréhension, dans ta bouche, dans ton expression et dans ton cœur. La fille est considérée comme majeure à 12 ans et un jour. Elle entre alors dans son apprentissage de femme et de future mère, de reine du foyer au plan de la liturgie domestique. Son obligation comporte la hallah. La hallah, c'est faire du pain. Le pain du Shabbat ou des jours de fête, c'est un pain tressé. On tresse, on fait comme des petits boudins qu'on met ensemble et que l'on tresse. La hadlaka, c'est l'allumage des bougies de Shabbat. Ce sont elles qui font la liturgie domestique. La liturgie est domestique. Pour les femmes surtout, c'est elles qui la font. Elle est publique dans la synagogue pour les hommes. Et la nida, c'est le bain sacré de la couchée, de la coucheuse ou de la femme qui a ses règles. Voilà. La coutume s'est introduite progressivement et reconnue au XIXe siècle de célébrer la bat mitzvah. C'est-à-dire la fille du commandement, pour signaler que l'adolescente devient responsable de ses propres décisions. La jeune fille étrenne une robe et récite une bénédiction particulière à la synagogue. Dans certaines communautés américaines, elle célèbre sa majorité religieuse en conduisant l'office du vendredi soir ou du Shabbat matin et fait la lecture du prophète. Devant un minyan féminin, 10 hommes, 10, ici c'est 10 femmes. Voilà. Donc, soin, signification de l'éducation. Alors, je fais tout un passage sur l'homme et la femme. La signification des rôles. Si nous pouvons mettre face à cela, la thèse actuelle du genre. La Bible s'ouvre sur la création du monde, dont le livre de la Genèse fait un double récit. Au terme du premier, nous lisons Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Mâle et femelle. Parce qu'il y a un passage de mâle et femelle à homme et femme. Ce n'est pas la même chose. Mâle et femelle, c'est inscrit dans la nature. Homme et femme, c'est l'acceptation, l'accueil de cette réalité qui est dans la nature. Donc ce sont deux choses différentes. Mâle et femelle, c'est une réalité de nature, à donner, tandis que c'est la prise en compte. Et le juif qui aime bien retrouver tout dans l'alphabet signale ça d'une certaine manière. En hébreu, Ça, c'est le mot ish. Et la femme s'appelle Isha. Ish. Et Isha. Isha. Alors, visuellement, vous voyez qu'il y a deux lettres qui sont pareilles. Le Aleph et le Shin. Le Aleph et le Shin. Et ça fait un mot. Esh, c'est le feu. Qu'est-ce qui est semblable dans l'homme et la femme? C'est le feu. Le feu, c'est l'amour. Le feu, c'est une présence divine. Donc c'est l'amour divin qui lie l'homme et la femme, qui est semblable dans l'homme et la femme. Qu'est-ce qui est différent? Le yod et le hé. Ah, c'est ya. Ya signifie Yahvé. Hein, yahou. Oh! Oh, lui! Et bien, c'est la réalité intime. Intimité. Yah, c'est Dieu en tant que sa personnalité profonde. Le feu, c'est la tribu de justice, l'intimité, la réalité profonde, c'est son attribut de miséricorde. Yah. L'indication de Dieu, nom qu'on ne prononce pas. Qu'est-ce qui fait que l'homme et la femme peuvent se reconnaître comme homme et femme? C'est le feu de l'amour de Dieu, mais dans sa réalité la plus profonde, la plus intime, qui est, elle, différente. L'autre est différent de moi, le yod est différent du hé. Dieu est celui qui lie et qui distingue l'homme et la femme. La femme est son vis-à-vis. Et là aussi, hein, en Israël, on me disait souvent, mais tu ne peux pas connaître Dieu. Si tu ne connais pas une femme, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas l'autre. Et justement, Dieu est présent dans l'altérité. Parce que Dieu est unique. Si tu ne reconnais pas, tu ne connais pas. Connaître, c'est s'unir à. Si tu ne connais pas une femme, tu es tronqué. Tu n'es pas toi-même. Tu ne peux être toi-même que dans l'union. Tu ne peux dire Dieu, tu ne peux reconnaître Dieu que dans l'union. Pour expliquer cette image de Dieu en vis-à-vis, mon vis-à-vis, c'est une présence divine. Je suis toujours d'une manière ou d'une autre devant Dieu. C'est pour ça que je vais mettre ma kippa. Ma kippa, c'est la main de Dieu. Kaf, c'est la paume de la main. Kippa, c'est la main de Dieu qui est sur ma tête. Donc, la kippa, c'est le signe de la présence divine. Et quand l'homme croyant, l'homme pratiquant, le juif, est en présence d'autres personnes, il met sa kippa. Ou quand il est en prière. Parce que ça lui rappelle la main de Dieu qui est sur sa tête. La main de Dieu qui le protège. La main de Dieu qui lui donne vie, etc. Pour expliquer cette image de Dieu en vis-à-vis, les sages signalent que Dieu lui-même épouse, non pas une déesse, comme dans les mythologies anciennes, mais le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël est une présence divine. Le Cantique des Cantiques reprend la même métaphore. Et les rabbins ne cessent de donner en exemple les couples de patriarches et de matriarches. C'est pour ça qu'ils reviennent toujours sur les pères et les mères, hein, Abraham, Sarah, Rebecca, etc. Souvent d'ailleurs, Dieu est présent comme père avec des gestes, des attitudes, des pratiques de mère. C'est comme ça que la Bible présente Dieu. Vous pouvez lire justement, puis je fais le passage de ce que je viens de vous dire au tableau. Donc le mariage est important. Être sous le dé. Le mariage est important. Parce que le mariage, justement, c'est l'accomplissement de cette présence de Dieu par le don de la vie. Comment mettre cette perspective, donc de la sainteté de la vie qui passe à travers l'homme et la femme, en œuvre dans la célébration religieuse du mariage? Notons d'abord qu'il est un devoir sacré. Celui qui ne se marie pas vit sans joie, sans bénédiction, sans bien. Voilà, Talmud. Le rabbin fait fonction d'officier de l'état civil. Aussi, en Israël, certains juifs laïcs qui veulent échapper aux autorités religieuses vont se marier à l'île de Chypre. Le mariage est appelé Kiddushin, Kiddush. Le Kiddush, hein, c'est la sainteté, c'est la sainteté, Kadash, Kodesh. C'est le saint. Kiddushin, les saintetés, les sanctifications. Parce que c'est un acte qui fait entrer dans le plan divin du don de vie. Donc tous les gestes de l'homme et de la femme entre eux sont sainteté, sont d'une sainteté. Il implique l'exclusivité et conduit à l'intimité. Il vise la création d'un foyer au sein du peuple de l'Alliance, bien entendu. Dans la Bible, le mariage était précédé d'une période de fiançailles. Hérousine et Nissouine. Donc c'est... Autre mot pour dire le mariage, le nisouim, atanasouim, quand tu es marié, signifie, en fait, la prise en charge de. Un nasa signifie porter. Porter, enlever. L'agneau qui enlève le péché du monde. Hein, nous traduisons, qui enlève le péché du monde. C'est à Elohim. Le agneau de Dieu, c'est à Elohim, qui porte et enlève le péché du monde, qui assume le péché du monde. Et c'est ce terme aussi, assumer l'autre, le prendre en charge totalement, c'est ça, le nisouim, c'est la sanctification, hein, d'un lien de prise en charge. Le divorce est possible, mais c'est une tolérance. Et Jésus d'ailleurs le note que c'est une tolérance. C'est pour votre cœur, hein, c'est parce que la dureté de votre cœur. Vous avez deux documents qui sont à lire, hein, document 13 et... Oui, 13, à la page 27 notamment. Hein. Le divorce est bien sûr possible, mais c'est une tolérance et les conditions sont précisées. Le mari doit remettre à sa femme un acte de divorce dûment écrit, signalant soit une incompatibilité de caractère, un mal répugnant, soit une infidélité marquée, une stérilité irrémédiable, etc. Et donc, je dis un mot sur le célibat qui n'est pas en fait admis puisque c'est une non-conformité au premier commandement de Dieu. Alors, je n'ai pas le temps de poursuivre plus longuement. Deux choses importantes. L'amour du prochain, vous pouvez lire, je donne un long extrait d'un rabbin. Et la mort et le deuil. La mort, c'est... une fin de vie. Et donc la mort a quelque chose à voir aussi avec la vie. Et s'il n'y a pas une vie dans l'au-delà, s'il n'y a pas une vie qui se prolonge, il y a quelque chose de choquant. Que Dieu crée la vie pour la mort, ça ne va pas. C'est incompatible. Et donc la mort, dans la perception juive, la mort, c'est l'expiation de tous les péchés d'une vie. Parce que c'est le lâcher tout. C'est le moment où l'homme, effectivement, lâche tout ce qu'il est entre les mains de Dieu. Et donc, de toute façon, la mort de chaque homme, de chaque femme, la mort expie tous les péchés d'une vie, quels que soient ses fautes, puisqu'il est cette remise de soi. L'homme ne l'a pas toujours reconnu, il ne le reconnaît pas toujours, même lorsqu'il va mourir, mais la mort, c'est cela. Et donc, elle a un sens de tristesse, le deuil est aussi une réalité qui est bien stipulée par des règles précises, et la tristesse doit être marquée, c'est essentiel de marquer que l'homme est fait pour la vie et que la vie vient de Dieu. Vous avez bien remarqué que c'était la chose essentielle dans la vie du juif. Qu'elle soit vécue comme cela, ce n'est pas toujours le cas, hein, mais c'est la manière de voir, c'est la visée en tout cas, et ce sont les préceptes. Merci à vous. Thank you.